7. Le mardi matin, à 8 heures, Ralph tondait l'herbe du jardin derrière la maison. Devant cette journée d'oisiveté qui s'annonçait, il ne savait pas quoi faire d'autre pour occuper son temps. Mais pas son esprit qui continuait à tourner en rond tel un hamster à l'intérieur de sa roue. Le corps martyrisé de Frank Peterson, les témoins, la conférence de Cobain enregistrée, l'ADN, la foule devant le tribunal. Surtout ça. Pour une raison inexpliquée, il revoyait sans cesse la bretelle du soutien-gorge qui avait glissé de l'épaule de cette fille, un fin ruban jaune vif, qui tressautait alors qu'elle agitait les poings, perchée sur les épaules de son petit ami. Il entendit à peine le crépitement de xylophone de son portable. Il arrêta la tondeuse pour répondre, planté au milieu du jardin, en basket, ses chevilles nues constellées de brins d'herbe.
Anderson, j'écoute.
Troy Ramage, chef.
Un des deux agents de police qui avait arrêté Terry. Il y avait si longtemps. Dans une autre vie, comme on disait.
Quoi de neuf, Troy?
Je suis à l'hôpital avec Betsy Riggins.
Ralph sourit, une expression devenue si rare sur son visage ces derniers temps qu'elle paraissait incongrue.
Elle va accoucher?
Non, pas encore. Le chef lui a demandé de venir parce que vous êtes en congé, et Jack Hoskins est toujours à la pêche sur le lac Okoma. Il m'a envoyé lui tenir compagnie.
Que se passe-t-il?
Une ambulance a amené Fred Peterson il y a quelques heures. Il a tenté de se pendre dans son jardin, mais la branche à laquelle il avait attaché la corde s'est brisée. La voisine, une certaine Madame Gibson, lui a fait du bouche-à-bouche et l'a sauvée. Elle est venue prendre de ses nouvelles et le chef veut qu'elle fasse une déposition. C'est le protocole, je suppose, mais pour moi, pas la peine de chercher midi à 14 heures. Ce pauvre gars a toutes les raisons du monde de vouloir tirer sa révérence.
Il est dans quel état?
D'après les toubibs, ses fonctions cérébrales sont quasiment nulles. Il a une chance sur 100 de reprendre connaissance. Betsy a pensé que vous voudriez le savoir.
Ralph crut pendant un instant qu'il n'allait pas garder le bol de céréales avalé ce matin, et il tourna le dos à sa tondeuse pour ne pas l'asperger.
Chef, vous êtes toujours là?
Ralph ravala un mélange aigre de lait et de riz soufflé.
Oui, je suis là. Où est Betsy?
Dans la chambre de Peterson avec Madame Gibson. L'inspectrice Riggins m'a chargé de vous appeler car on n'a pas le droit d'utiliser des portables en soins intensifs. Les médecins leur ont proposé une pièce pour pouvoir discuter tranquillement, mais Madame Gibson a insisté pour rester auprès de Peterson, comme si elle pensait qu'il pouvait l'entendre. C'est une vieille femme charmante, mais son dos la fait souffrir. Ça se voit à sa façon de marcher. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Peut-être qu'elle attend un miracle?
Ralph comprenait les motivations de Madame Gibson. Elle avait sans doute échangé des recettes de cuisine avec Arlene Peterson. Elle avait vu grandir Holly et Frankie. Fred avait peut-être dégagé son allée après une des rares tempêtes de neige qui frappait parfois Flint City. Elle était là par respect et tristesse, à cause d'un sentiment de culpabilité. Car au lieu de laisser mourir Peterson, elle l'avait condamné à un séjour sans fin dans une chambre d'hôpital, où des machines respireraient à sa place. L'horreur absolue de ces 8 derniers jours s'abattit sur lui, telle une vague. Le meurtrier n'avait pas seulement pris la vie du jeune garçon, il avait décimé toute la famille Peterson, le grand ménage. Non, pas le meurtrier. Pourquoi cet anonymat? Terry. Le meurtrier était Terry. Il n'y avait pas d'autre suspect.
J'ai pensé que vous voudriez être au courant,
répéta Ramage.
Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Betsy va peut-être commencer à avoir des contractions pendant qu'elle est ici. Ça évitera son mari de l'emmener en voiture.
Dites-lui de rentrer chez elle.
Bien reçu. Chef, désolé pour la façon dont ça s'est passé au tribunal. Quel merdier.
Oui, ça résume bien la situation. Merci d'avoir appelé. Ralph se remit à tondre, en marchant lentement derrière sa vieille Lone Boy bancale. Il faudrait vraiment qu'il aille en acheter une neuve chez Home Depot. Il n'avait plus d'excuses maintenant qu'il avait tout ce temps libre. Et il achevait le dernier coin de pelouse quand son portable recommença à jouer son boogie au xylophone.
Sans doute Betsy,
pensa-t-il. Erreur, même si cet appel provenait effectivement de l'hôpital.
On n'a toujours pas les résultats complets des analyses ADN,
dit le docteur Edward Bogan.
Mais on a ceux de la branche utilisée pour sodomiser le garçon. Le sang, plus des fragments de peau provenant de la main du meurtrier quand il a tenu la branche.
Je vois, dit Ralph. Ne faites pas durer le suspense.
Il n'y a aucun suspense, inspecteur. Les échantillons prélevés sur la branche correspondent aux prélèvements salivaires.
Bien. Merci pour cette information, docteur Bogan. Transmettez-la au chef Geller et au lieutenant Sablot de la police d'État. Je suis en congé administratif et je le resterai sans doute tout l'été.
C'est ridicule.
C'est le règlement. Je ne sais pas qui Geller va choisir pour faire équipe avec Yunel. Jack Hoskins est en vacances et Betsy Riggins va accoucher de son premier enfant d'une minute à l'autre. Mais il trouvera bien quelqu'un. Et puis, quand on y réfléchit, maintenant que Maitland est mort, il n'y a plus vraiment d'enquête. On se contente de combler les trous.
Des trous importants,
dit Bogan.
L'épouse de Maitland peut décider d'intenter un procès. Cette nouvelle analyse d'ADN incitera peut-être son avocat à changer d'avis. Selon moi, ce procès serait une obscénité. Son mari a assassiné cet enfant de la plus abominable des manières, et si elle n'était pas au courant de ses penchants, c'est qu'elle ne faisait pas attention. Avec les sadiques sexuels, il y a toujours des signes. Toujours. Si vous voulez mon avis, on aurait dû vous décerner une médaille au lieu de vous mettre en congé.
Merci pour votre soutien.
Je dis ce que je pense. Voilà tout. On attend encore d'autres analyses. Voulez-vous que je vous tienne informé à mesure qu'elles arrivent ?
Volontiers. Le chef Geller allait peut-être faire revenir Hoskins prématurément. Mais ce type était un bon à rien, même sobre, ce qui n'arrivait plus très souvent. Ralph coupa la communication et tondit la dernière bande de pelouse. Après quoi il fit rouler la Land Boy jusqu'au garage. En nettoyant le moteur, il songea à une autre nouvelle d'Edgar Poe, l'histoire d'un homme emmuré dans une cave à vin. Il ne l'avait pas lu, mais il avait vu le film.
« Pour l'amour de Dieu, mon trésor !»
avait hurlé l'homme que l'on emmurait vivant. Et son bourreau avait approuvé. « Pour l'amour de Dieu !» Ici, c'était Terry Maitland que l'on emmurait. Mais les briques étaient de l'ADN, et il était déjà mort. Il existait des preuves contradictoires, en effet. Et c'était troublant. Mais désormais, ils avaient des échantillons d'ADN prélevés à Flint City, et aucun provenant de Cap City. Certes, il y avait les empreintes digitales sur le livre, mais des empreintes, ça pouvait se falsifier. Ce n'était pas aussi simple que le laissaient croire les séries policières, mais c'était faisable. Et les témoins, Ralph, ces professeurs qu'il connaissait depuis des années. Peu importe, pense à l'ADN. Des preuves concrètes, il n'y a pas plus solide. Dans la nouvelle de Poe, mon trésor était trahi par un chat noir qu'il avait emmuré par inadvertance avec sa victime. Ses miaulements avaient alerté les personnes qui descendaient dans la cave. Ce chat, devinait Ralph, était une autre métaphore, la voix de la conscience du meurtrier. Mais parfois, un cigare n'était qu'un cigare et un chat juste un chat. Il n'y avait aucune raison de repenser sans cesse au regard mourant de Terry ou à ses dernières paroles. Comme l'avait souligné Samuels, sa femme était agenouillée à côté de lui et elle lui tenait la main. Ralph s'assit sur son établi. Il se sentait étrangement fatigué pour un homme qui avait simplement tondu une petite étendue d'herbe. Les images des minutes précédant la fusillade ne le quittaient pas. L'alarme de la voiture, le rictus hideux de la présentatrice blonde en découvrant qu'elle saignait, une légère égratignure sans doute, mais c'était bon pour l'audience. L'homme brûlé aux mains tatouées, le garçon au bec de lièvre, le soleil qui faisait ressortir la constellation complexe des éclats de mica sur le trottoir, la bretelle de soutien-gorge jaune qui tressautait. Ce détail plus que tout le reste. Comme s'il voulait mener vers autre chose. Mais parfois, une bretelle de soutien-gorge n'est qu'une bretelle de soutien-gorge. Et un homme ne peut pas se trouver dans deux endroits à la fois, murmura-t-il.
Ralph, tu parles tout seul ?
Il sursauta et leva la tête. Gianni se tenait sur le seuil du garage.
Oui, faut croire, puisqu'il n'y a personne d'autre.
Je suis là, dit-elle. Ça va ?
Pas très bien, avoua-t-il, et lui parla de Fred Peterson.
Gianni accusa le coup.
Oh mon Dieu, c'est la fin de cette famille, à moins qu'ils reprennent connaissance.
Quoi qu'il arrive, cette famille est anéantie.
Ralph descendit de l'établi.
Je ferai un saut au poste un peu plus tard pour jeter un coup d'œil à ce morceau de papier. Ce bout de menu ou je ne sais quoi.
Prends une douche d'abord. Tu sens l'essence et l'herbe.
Il sourit et mima un salut militaire.
À vos ordres, chef.
Gianni se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue.
Ralph, tu t'en remettras. Tu verras. Crois-moi.
8. N'ayant jamais été en congé administratif, il y avait un tas de choses que Ralph ignorait. Ainsi, avait-il seulement le droit de pénétrer dans l'enceinte du poste de police? C'est pourquoi il attendit le milieu de l'après-midi avant de s'y rendre, lorsque le pouls de l'agitation quotidienne faiblissait. Quand il arriva, il n'y avait personne dans la salle principale, à l'exception de Stephanie Gould, encore en civil, qui remplissait des rapports sur un des vieux ordinateurs que la municipalité promettait toujours de remplacer, et Sandy McGill, au standard, occupé à lire « People ». Le bureau du chef Geller était vide.
« Hé, inspecteur !»
s'exclama Stéphanie en levant la tête.
« Qu'est-ce que vous faites ici? Il paraît que vous êtes en congé payé. »
« J'essaie de m'occuper. »
« Je peux vous aider ?»
répondit-elle en tapotant la pile de dossiers à côté de son ordinateur.
« Une autre fois, peut-être. »«
Je suis désolé pour ce qui s'est passé. On l'est tous. »«
Merci. »
Ralph se dirigea vers le standard et demanda à Sandy la clé de la salle des scellés. Elle la lui remit sans hésitation, levant à peine les yeux de son magazine. À côté de la salle, un clipboard pendait à un crochet, avec un stylo. Ralph envisagea de sauter cette formalité, mais finalement il inscrivit son nom, la date et l'heure, 15h30. Il n'avait pas le choix, en réalité. Gould et McGill l'avaient vu, et elle savait pourquoi il était là. Si quelqu'un lui demandait ce qu'il était venu chercher, il répondrait franchement. Après tout, il s'agissait d'un simple congé administratif, pas d'une suspension. La salle des scellés, à peine plus grande qu'un placard, était surchauffée et étouffante. Les rampes de néon au plafond clignotaient. Comme les antiques ordinateurs, elles avaient besoin d'être changées. Grâce aux crédits fédéraux, Flint City veillait à ce que sa police dispose de tout l'armement nécessaire, voire plus. Alors, quelle importance si l'infrastructure partait à volo? Si Frank Peterson avait été assassiné à l'époque où Ralph était entré dans la police, les pièces à conviction auraient peut-être rempli 4 cartons, ou même une demi-douzaine. Mais l'informatique avait accompli des merveilles en matière de compression. Et aujourd'hui, il n'y en avait que 2, plus la boîte à outils retrouvée à l'arrière de la camionnette. Celle-ci contenait un banal ensemble de clés, de marteaux et de tournevis. Les empreintes de Terry n'apparaissait sur aucun de ses outils, ni sur la boîte. Ralph en déduisait qu'elle était déjà dans la camionnette au moment du vol, et que Terry n'avait pas pris la peine d'examiner son contenu après avoir volé la camionnette pour son usage propre. Un des 2 cartons portait la mention « Domicile Maitland », l'autre « Camionnette Subaru ». C'était celui-ci qui intéressait Ralph. Il coupa le ruban adhésif. Rien ne l'en empêchait, maintenant que Terry était mort. Après avoir fouillé brièvement, il sortit le sachet en plastique transparent contenant le bout de papier dont il se souvenait. Bleu, vaguement triangulaire. En haut, en caractère gras, on pouvait lire « Tommy et Top ». Ce qui venait après Top avait disparu. Dans le coin supérieur, un petit dessin représentait une tourte fumante. Bien que Ralph ne s'en souvienne pas particulièrement, c'était sans doute ce détail qui l'avait amené à penser qu'il s'agissait d'un menu. Qu'avait donc dit Gianni au cours de leur discussion ce matin?
Je crois qu'il y a dans ma tête des dizaines de pensées alignées en file indienne derrière chaque pensée consciente.
Si sa femme avait raison, Ralph aurait payé cher pour connaître celle qui se cachait derrière cette bretelle de soutien-gorge jaune, car il y en avait une, il en était quasiment certain. Autre chose dont il était presque certain. Ce bout de papier se trouvait sur le plancher de la camionnette. Quelqu'un avait glissé des menus sous les essuie-glaces des véhicules garés à proximité de celle-ci. Le conducteur, peut-être le gamin qu'il avait volé dans l'État de New York ou celui qu'il avait volé ensuite, avait arraché le prospectus au lieu de soulever les essuie-glaces, ne laissant que ce triangle de papier. Le conducteur ne s'en était pas aperçu sur le coup, mais en roulant, il l'avait vu. Peut-être avait-il sorti la main pour l'enlever, et il l'avait laissé tomber à ses pieds plutôt que de le laisser s'envoler. car même si c'était un voleur, ce n'était pas un pollueur. Ou bien il y avait une voiture de police derrière lui et il avait peur de commettre le moindre geste susceptible d'attirer l'attention. Autre hypothèse, il avait tenté de le jeter par la fenêtre, mais un souffle de vent l'avait renvoyé à l'intérieur. Ralph avait enquêté sur plusieurs accidents de voiture, dont un très grave, où la même chose s'était produite avec des mégots de cigarettes. Il sortit son calepin de sa poche arrière. Congé administratif ou pas, il l'avait toujours sur lui. Et nota « Tommy et Top » sur une page vierge. Il replaça le carton « camionnette Subaru » sur l'étagère, puis ressortit de la salle, sans omettre d'indiquer l'heure, et verrouilla la porte. En rendant la clé à Sandy, il tendit son calepin ouvert devant elle. Sandy abandonna les dernières aventures de Jennifer Aniston pour y jeter un coup d'œil. « Ça vous dit quelque chose ?»«
Non. »
Elle replongea dans son magazine. Ralph retourna auprès de l'agente Gould, toujours occupée à entrer des informations dans une base de données quelconque en jurant à voix basse quand elle faisait une faute de frappe, ce qui semblait fréquent.
« Tap, c'est un vieux mot d'argot anglais pour dire baiser, je crois. Comme dans « Hier soir, j'ai topé ma nana, mec. Mais je ne vois rien d'autre, c'est important ?»«
Je ne sais pas. » « Sans doute pas.
Essayez sur Google. »
En attendant que son ordinateur d'une autre époque démarre, il décida d'interroger la banque de données qu'il avait épousée. Jenny répondit dès la première sonnerie, et elle n'eut même pas besoin de réfléchir pour répondre à sa question.
« Ça pourrait être Tommy et Toppence, deux adorables détectives inventés par Agatha Christie, qu'elle utilisait quand elle n'écrivait pas les aventures d'Hercule Poirot ou de Miss Marple. » Si c'est bien ça, tu vas certainement tomber sur un restaurant tenu par des Britanniques expatriés qui proposent des spécialités du style Bubble and Squeak.
Bubble quoi?
Laisse tomber.
De toute façon, ça ne mène sûrement nulle part, dit-il. Mais peut-être que si. Vous enquêtiez sur ce genre de conneries pour en avoir le cœur net, dans un sens comme dans l'autre. Pardon à Sherlock Holmes, mais enquêter sur des conneries constituait le gros du travail d'inspecteur.
Je suis curieuse de savoir quand même. Tu me raconteras en rentrant. Oh, au fait, on n'a plus de jus d'orange.
Je m'arrêterai chez Gerald's, promit-il, et il raccrocha. Il se connecta à Google, entra Tommy et Toppence, puis ajouta restaurant. Si les ordinateurs de la police de Flint City étaient vieux, la connexion Wi-Fi était neuve et rapide. Il trouva ce qu'il cherchait en quelques secondes. Le pub café Tommy et Toppence se trouvait sur North Woods Boulevard, à Dayton, Ohio. Dayton. Le nom de cette ville n'était-il pas déjà apparu dans cette sinistre enquête? Et si oui, à quel moment? Ralph se renversa dans son siège et ferma les yeux. Le lien qu'il essayait désespérément d'établir à partir de cette bretelle de soutien-gorge jaune continuait à lui échapper, mais pas celui-ci. La ville de Dayton avait été évoquée au cours de sa dernière vraie conversation avec Terry Maitland. Il parlait de la camionnette, et Terry avait déclaré qu'il n'avait pas mis les pieds dans l'État de New York depuis sa lune de miel. Le seul voyage qu'il avait effectué récemment, c'était dans l'Ohio, à Dayton précisément.
Pour les vacances de printemps des filles, je voulais voir mon père.
Et quand Ralph lui avait demandé si son père vivait là-bas, Terry avait répondu
« Si on peut appeler ça vivre ».
Il téléphona à Sablo. Salut, Yunel, c'est moi.
Hé, Ralph, alors, comment ça se passe la retraite?
Bien, vous devriez voir ma pelouse. J'ai entendu dire que vous aviez été félicité pour avoir protégé le corps délectable de cette petite conne de journaliste.
Oui, il paraît. On peut dire que la vie a souri au fils d'une pauvre famille de paysans mexicains.
Vous ne m'avez pas raconté que votre père était le plus gros vendeur de voitures d'Amarillo?
Oui, peut-être. Mais quand vous devez choisir entre la vérité et la légende, imprimez la légende. La leçon de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance. Que puis-je faire pour vous?
Samuels vous a parlé du gamin qui est le premier à voler la camionnette.
Ouais, sacrée histoire. En plus, ce gamin s'appelait Merlin. Vous le saviez? Il fallait que ce soit une sorte de magicien pour aller jusqu'au Texas.
Vous avez des contacts à El Paso? C'est là-bas qu'a pris fin sa cavale. Mais je sais par Samuels que le gamin a abandonné la camionnette dans l'Ohio. Ce que je voudrais savoir plus précisément, c'est s'il l'a laissé près d'un café baptisé Tommy et Toppence, dans North Woods Boulevard, à Dayton.
Je peux tenter le coup.
Toujours d'après Samuels, Merlin, le magicien, a fait de la route. Pouvez-vous essayer de savoir également quand il a largué la camionnette? Si ça serait pas en avril par hasard.
Je peux essayer? Vous voulez bien me dire pourquoi?
Terry Maitland se trouva à Dayton en avril, pour rendre visite à son père.
Ah oui?
Gunnell semblait totalement concerné maintenant.
Seul?
Non, avec sa famille. Et ils ont voyagé en avion.
Voilà qui règle le problème.
Sans doute. Mais cette question exerce une fascination particulière sur mon esprit.
Il va falloir m'expliquer, inspecteur, car je ne suis que le fils d'un pauvre fermier mexicain.
Ralph soupira.
Bon, je vais voir ce que je peux trouver.
Merci, Gunnell. Juste au moment où Ralph raccrochait, le chef Geller entra, un sac de sport à la main, les cheveux encore mouillés comme s'il sortait de sous la douche. Ralph le salua d'un geste et reçut un froncement de sourcils en retour. « Vous n'avez rien à faire ici, inspecteur. » « Ah, voilà qui répondait à la question. Rentrez chez vous, tendez la pelouse ou je ne sais quoi. »«
C'est déjà fait, » répondit Ralph en se levant. « Ma prochaine corvée, c'est ranger la cave. »«
Parfait, mettez-vous au boulot. » Geller s'arrêta sur le seuil de son bureau et se retourna. « Ralph, je suis désolé pour toute cette histoire. Franchement désolé. »
« Les gens n'arrêtent pas de dire ça. »
songea Ralph en sortant sous la chaleur de l'après-midi.